Salam alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tay, le tout premier épisode de 2022. Ça me fait super plaisir de vous voir aujourd'hui parce que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et parce que la dernière fois qu'on s'est vu aussi, on a complètement lâché nos projets pour juste partir en chit-chat pendant 2 heures.
Trois,
avant d'aller manger des pizzas turques.
C'est ça, ouais, c'était une grosse journée, on s'est regardé droit dans les yeux, on a dit bon, allez.
Bon, aujourd'hui on n'est pas motivé, donc voilà, aujourd'hui nous le sommes. Et le thème de la journée, c'est l'orientalisme. Donc on va essayer un peu de partir de la définition jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire l'orientaliste? De parler des fantasmes et des clichés, de l'orientalisme intégré qu'on peut avoir aussi en nous. Et à ma table aujourd'hui, j'ai Amel. Comment tu vas?
Ça va pas.
Oula, pourquoi?
Non, t'inquiète, vas-y.
C'est à cause de Genshin Impact.
Oui, encore.
Genshin Impact.
Tout ça. Genshin Impact is the new LOL.
Exactement. Donc, si des gens qui nous écoutent jouent, s'il vous plaît, envoyez un DM. J'ai besoin de...
De copains.
J'ai voilà. Besoin de gens.
Vous nous enverrez vos identifiants Genshin Impact, on va les transmettre à Amel. Sid, comment tu vas?
Tout va bien, alhamdoulilah, à quelques détails près que je vous invite à voir dans mes vlogs. Voilà, comme ça je le raconte pas.
Oh la pub.
De ouf. Vraiment excellent. Une com en personal branding incroyable.
Top.
Théophile, comment ça va?
Eh ben la météo à Paris est laide, mais être avec vous ça m'apporte du soleil.
Ouh. Wow.
Et le petit waouh là que vous avez entendu, une nouvelle fois
aujourd'hui à table.
On a un nouvel invité.
Exclusive.
Anas, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire ton âge, ce que tu fais dans la vie, nous parler de À l'intersection que je pense beaucoup d'auditeurs de La Tay écoutent.
Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de l'intersection qui vous écoutent aussi. Je m'appelle Anas, j'ai 26 ans, je suis journaliste et j'ai lancé À l'intersection il y a bientôt 2 ans. Pour parler des expériences des diasporas nord-africaines, afro-descendantes, asiatiques, en fait tout ce qu'on met sous le prisme des post-colonialités en France. Voilà en gros.
Théophile, tu vas peut-être commencer parce que je crois que t'es le seul autour de la table qui a bien entamé la lecture de l'orientalisme de Edward Said parce que on a la flemme de donner des devoirs dans la taille. Donc je te laisse peut-être commencer par peut-être une petite définition de qu'est-ce que c'est.
Je suis le pigeon qui prend des notes dans ce podcast. Donc on va commencer. Non, il y a Amel aussi qui a
j'ai lu 10 pages. J'ai acheté le livre.
Mais c'est bien, c'est les plus importantes. L'orientalisme, c'est un sujet qui est compliqué. Déjà, faut voir de quoi on parle, il faut savoir qui en parle. Pour le podcast, du coup, on a lu le bouquin d'Edward Said, L'Orientalisme, qui est la référence en termes de décrypter un peu ce qu'est ce mouvement, qui est un truc à la fois artistique et scientifique, et qui a accompagné en fait les puissances coloniales dans leur expansion en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et en fait dans tout l'Orient finalement. Mm-hmm. Edward Said, c'est un mec qui est né en Palestine à Jérusalem, quand c'était encore sous mandat britannique. Et en fait, il vient d'une famille chrétienne. Et il est palestinien américain parce qu'en fait, son père a aidé avec la Première Guerre mondiale. Et du coup, ça va le propulser pour qu'il aille faire ses études aux US. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que l'orientalisme, lui, il le décrit comme le regard du colon. Fondamentalement, l'orientalisme, il n'y a rien de plus. On peut simplifier ça, c'est le regard du colon, c'est l'Orient par et pour le colon européen et américain. C'est un courant artistique. C'est-à-dire qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, on va avoir des peintures faites par des gens qui n'y auront jamais mis les pieds. Je pense notamment au douanier Rousseau, par exemple, en France, très grand peintre français assez acclamé, qui a peint des choses qu'en fait qu'on lui a racontées. Il n'a jamais foutu les pieds dans les endroits qu'il a peint. Et en France, encore, on a, par exemple, avec la colonisation algérienne, les colons qui vont avoir ce phénomène-là des cartes postales algériennes. Les cartes postales algériennes, c'est un phénomène artistique et en fait un peu de société où on va un peu nourrir l'imaginaire collectif de l'Orient au travers de ces communications-là.
Pour la France métropolitaine.
Pour la France métropolitaine. Mmh. Et avec justement ces paysages-là très, très romancés finalement, mais qui vont finalement contribuer à faire naître un peu l'imaginaire de l'Orient dans la conscience à la fois personnelle, les gens qui vont recevoir des cartes postales, voilà, c'est très, très intime, très interpersonnel, mais aussi dans l'imaginaire collectif.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question un peu de propagande derrière en même temps?
Et absolument, si, bien sûr, parce que finalement, comment est-ce qu'on peut justifier d'envahir des gens, des populations et de les soumettre et finalement en fait de les conquérir s'il n'y a pas finalement un but un peu plus grand derrière? Parce qu'à cette époque-là, on n'est déjà plus au moment où on peut juste aller voir ses voisins et leur taper sur la gueule. Donc il faut un grand but derrière, et ce grand but-là, ça va être l'apport de la lumière européenne, l'apport de la connaissance. Et d'ailleurs, c'est vachement un point qu'on retrouve quand on discute, qu'on a le malheur de discuter de colonisation avec des gens aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va nous dire, mais on a apporté des autoroutes, on a apporté des hôpitaux.
Mais on n'en voulait pas, nous, de vos
autoroutes. Oui, alors.
Mais déjà, surtout.
Et surtout, oui, alors déjà, on peut arguer le fait que Hitler aussi apporte des autoroutes en Allemagne. C'est, l'autoroute en elle-même, c'est pas un truc génial, il faut voir ce qu'il apporte. Mais aussi, la colonisation, et notamment, je prends l'exemple de l'Algérie parce que je la connais bien, ça a réduit le taux d'alphabétisation drastiquement, c'est-à-dire qu'en fait, avec la destruction de toutes les écoles, notamment l'école coranique, ça a créé une population illettrée. Donc, c'est vraiment pas un pays de sauvages que la France est allée sauver de sa propre misère. Il y avait vraiment la régence d'Alger qui était là avant, et c'était vraiment pour des motifs extrêmement politiques, parce que du coup, à cette époque-là, la royauté française a besoin de conquêtes extérieures pour son image et la stabilité interne, mais aussi avec des motifs extrêmement idéologiques. De toute façon, on n'échappe pas à l'idéologie quand on parle de colonisation. Il y a toujours cet espace de « nous sommes supérieurs », nous avons écrit des ouvrages pour montrer à quel point nous sommes supérieurs et à quel point la race blanche a cet ascendant sur les autres races. Alors je dis le mot « race » comme à l'époque, c'est pas le mot « race » qu'on connaît maintenant. Et voilà. Donc, à partir de là, ce qui en découle, ça va être la vision du colon sur l'Orient et comment elle nous impacte aujourd'hui.
Regarde, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vraiment la formule générique de transition pour rebondir sur un machin, ça me casse la tête. Bref.
C'est vraiment ta formule.
Ça m'a saoulé. Bref, je me suis auto-saoulé, désolé. Pour faire un lien entre la petite description la très belle introduction que tu viens de nous faire et le sujet de l'orientalisme, il y a la volonté d'imposer son système, d'imposer sa manière de vivre en négligeant les systèmes qui nous font face. On l'a vu à plein d'étapes, c'est-à-dire par exemple même lorsque les premiers Européens arrivent en Amérique,
ouais.
C'est un choc de civilisation jusqu'au niveau biologique ou comment on appelle ça, un choc bactérien, un choc des maladies ces deux populations ultra séparées ne connaissaient pas. Deux populations se sont rencontrées, ça a été un massacre des deux côtés, parce qu'en fait on n'a pas la conscience des structures qui nous font face, que les civilisations qui nous font qui sont en face de nous, qui sont différentes de la nôtre, elles sont anciennes, elles sont bâties sur des fondations vieilles, profondes et plurielles, c'est-à-dire culturelles, religieuses, parfois mythologiques, parce que à la croisée de la religion et de la culture et de l'imaginaire qui s'inscrit dans un peuple. Et j'ai l'impression que l'orientalisme, ça traduit le côté où la civilisation qui nous fait face, c'est presque un dessin animé. C'est presque
c'est presque un
divertissement en fait. Ça ignorait tous les mécanismes, tous les explications de pourquoi ce que je vois, je le vois. Ouais. Et je l'ai beaucoup vu dans L'Alchimiste de Paolo Coelho, qui est... Ouais, rigole. C'est le livre que tous les start-upers de Clubhouse se sont approprié.
Arrêtez, il est trop bien.
Je vous emmerde. Ce livre, c'est une masterclass. Et je l'ai vu quand le personnage, c'est un Espagnol.
Okay.
Et quand il se balade, du coup, au Maghreb, au fil de l'histoire, il dit « J'ai vu des gens s'agenouiller et taper le sol avec leur tête. » Et j'étais très, très jeune quand j'ai lu le livre. Et il m'a fallu, je crois, 1 minute 30 pour capter que ce qu'il décrivait, c'était la prière. Tu vois.
T'as vu, ouais.
La prière musulmane, etc. Et donc, je me suis dit, du coup, que... Enfin, ça te remet en place ce moment de découverte que certains ont connu, que nous, en tant que mecs qui sommes nés en France, qui sommes nés dans une pluralité culturelle, on ne peut pas comprendre si on ne nous l'explique pas. Et donc, j'ai l'impression que l'orientalisme, c'est juste plein de mecs qu'on décrit ce qu'ils voyaient, un peu comme le personnage décrivait la prière. C'est-à-dire, c'est une mauvaise description, c'est une description très limitée, très...
Absolument.
Quasi enfantine.
Ouais.
Mais...
Ouais.
Il n'y a eu personne pour leur expliquer que c'était pas ça. Il n'y a eu personne pour lui dire, hey, mon gars, les femmes arabes, la beauté arabe, les machins, tu le décris pas comme ça. Il n'y a eu personne pour les récupérer.
Et c'est absolument vrai. Et il y a une expression, d'ailleurs, que je me souviens plus où je l'ai vue, mais qui dit comme si ces civilisations-là sortaient du jardin d'Éden.
Ouais.
Comme si elles étaient des humains fraîchement neufs et il n'y avait rien derrière.
Mmh.
Et c'est aussi là le
truc de pureté. Voilà.
Mais moi, dans l'orientalisme aussi, ce que je... Enfin oui, c'est une description faussée, mais ce que je vois aussi, moi, c'est un mouvement qui est très dangereux, en fait, qui a été très dangereux, notamment pour les femmes, avec le... Par exemple, moi, tout à l'heure, tu parlais des cartes postales, et je me rappelle avoir vu sur Internet des cartes postales et des affiches de femmes arabes qui portaient le voile, ou de la figure de la mauresque, par exemple.
Absolument.
Et avec cette idée-là que, par exemple, les femmes qui portent le voile doivent être dévoilées, typiquement. Mmh. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans la colonisation plus généralement, le vocabulaire en fait, qui a été utilisé, c'était un vocabulaire qui était entre guillemets féminin. Ça veut dire qu'on parlait de terre vierge, qu'on parlait de...
Oui, absolument.
De la... De, comment dire, la terre avec, qui avait la forme d'un sein. Et en fait, c'était toujours en fait, cette conquête coloniale qui était... qui mettait en parallèle en fait, avec la conquête des corps, et notamment des corps de femmes. Et dans l'orientalisme, en fait, ça crée des dégâts monstrueux. Pour ces femmes justement d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient du coup, parce que ça a permis des viols, ça a permis
humiliations, des cérémonies de dévoilement.
Exactement.
En fait, plus généralement, une espèce de déshumanisation des femmes de ces milieux concernés qui entraîne du coup toutes les dérives que ça permet. Après, tu soulèves ça, mais ça, c'était même présent. Enfin, j'allais naïvement dire à la fin, mais c'est même pas fini, mais à la décolonisation en fait, où on parlait de divorce, de séparation entre l'Occident et les pays, qui se libéraient, quoi.
C'est ça, en fait, il y a aussi ce truc où par l'apport de la lumière, comme tu disais, européenne, il y avait ce processus-là d'infantilisation en fait, qu'on retrouvait aussi en fait, aussi bien dans l'image générale de la colonisation, on a des enfants en fait face à nous qu'on va éduquer, et en même temps on a des femmes face à nous qu'on va façonner. En fait, il y a vraiment ce truc de rapport de pouvoir, et je trouve que dans l'orientalisme, une des pas particularités, mais on va dire une des spécificités aussi, c'est ce rapport aux femmes en fait qui est très paternaliste, et finalement quand si on sort juste un peu de l'orientalisme, on se rend compte que la colonisation finalement pour attaquer les hommes, c'est faite par le contrôle du corps des femmes, par exemple en Indochine.
Bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que le viol c'est une arme de guerre.
Le viol est une arme de guerre, oui.
Ouais, on a vu ça partout, dans tous les pays envahis, colonisés, ça passe toujours par la femme. Si on n'a pas accès à la femme, on n'a pas encore accès à tout le pays finalement.
C'est ça.
Donc typiquement au Maghreb, les femmes sont voilées, donc il y a une sorte de barrière et ça les a saoulées en fait finalement. Donc c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de peintures avec des femmes dévoilées, parce que
des photos aussi,
avec des prostituées, c'est vrai. Enfin c'était principalement des prostituées parce que c'était les seules femmes auxquelles ils avaient accès. Mais finalement on a eu beaucoup de peintures et de photos comme ça parce que c'était le seul moyen en fait d'atteindre le pays, les hommes, et c'était en dénudant les femmes, même s'ils n'avaient pas accès aux femmes directement, au moins par le biais des images finalement.
Et de ce qu'ils auraient aimé voir. C'est la première fois qu'un sujet qu'on traite me dégoûte.
Bah ouais, je me suis dit, j'ai plombé l'ambiance.
Non, c'est pas grave. L'ambiance, c'est pas un sujet qui est positif en soi, donc
ouais, c'est ça.
Ça sera pas un épisode joyeux,
c'est
non, clairement.
C'est ça. Mais. On n'est plus. On n'est pas concerné par ça, j'allais dire plus, mais si je mets une limite à nous, dans cette pièce, on n'est pas concerné par ces aspects de l'orientalisme qu'on a décrit là, parce qu'on n'est pas en temps de guerre, etc. Mais si ça me dégoûte, c'est que j'ai l'impression que c'est pas trop loin.
C'est pas si loin que ça.
Tu vois, par exemple...
Je pense que c'est même pas vraiment fini.
Est-ce que l'image et l'idée de la beurette, c'est l'enfant de
l'orientalisme? Beurette numéro 1 sur... Pornhub en France,
c'est pas
le nouvel orientalisme.
Ouais, surtout.
Merci pour
Donc voilà. Tu voulais dire quoi ?
En fait, ça avait rien à voir avec beurette, parce que j'avais l'impression qu'on était en train de glisser là, mais tu vois, typiquement, quand nous, jeunes de la diaspora, on parle du bled et on se dit. Enfin, moi, typiquement, quand j'étais plus jeune, je disais le Maroc, c'est la plage et Raïbi Jamila, là, tu vois.
Ouais.
Est-ce que, ou par exemple, des Algériens vont dire l'Algérie, c'est Selecto et je sais pas quel, ou Hamoud, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas une forme d'orientalisme?
Mais bien sûr,
c'est absolument ça. Absolument.
Comment on romance aussi le voyage de 3 jours quand on passe par le bateau et tout.
Il y
a une ambiance qu'on kiffe et qui compétitive.
J'avais lu un truc qui m'avait fait trop rire, c'était. En gros, c'était une meuf qui avait écrit une BD sur les vacances au bled et elle avait interviewé plein de gens. Et donc, parmi les gens qu'elle avait interviewé, il y avait une Marocaine. Et en gros, la Marocaine, elle n'était pas partie au bled pendant très longtemps. Et en fait, quand elle est arrivée au bled, quand ils ont servi le couscous, elle a commencé à manger à la main. Et du coup, tout le monde la regardait en mode, mais tu fais quoi? Et elle disait, c'est pas comme ça que vous faites ici. Il disait, on mange avec des couverts. Et genre pour elle, c'était un truc de ouf qu'on mange avec des couverts au bled.
Je suis désolée, mais chez moi, on mange encore à la main.
Oui,
après, il y a quand même pas de réalité.
Ça dépend, on mange toujours à la main. Et c'est meilleur, je trouve que le goût est complètement différent
de quand on mange avec les couverts et quand on mange avec la main.
Là, tu lances un débat, j'adore.
Je suis désolée.
J'adore.
À la main, c'est méga bon.
On mange partout. Couvert aux mains, tu vois.
Allez.
Let's go.
Un duel.
Ça va finir dans l'octogone sans règle.
Pour tempérer ce qu'on vient de dire, je pense que, en tout cas, moi, je veux pas casser cette image et cette relation qu'on a avec les souvenirs de ces voyages sur lesquels on a fait tout un épisode nous-mêmes, etc. Ça a alimenté beaucoup de belles choses dans nos communautés, dans notre construction identitaire, etc. Donc je crache pas dessus. Mais si on peut nous inviter nous-mêmes et inviter ceux qui nous écoutent à le replacer dans un contexte de... Je sais que c'est pas la réalité, c'est un vécu de double identité
parce que tes cousins du bled ils savent pas c'est quoi les vacances au bled, tu vois.
Ouais.
C'est chez eux.
Non, voilà, je voulais juste pas que notre discours soit perçu en mode oui, il faut pas aimer, il faut pas avoir bons souvenirs machin parce que sinon c'est de l'orientalisme. Les gars, on est tous sur Twitter, on sait que comment ça peut glisser. Non, c'est pas le message. Si on est conscient de la part que ça représente face à la réalité des choses, franchement, kiffez vos voyages comme vous avez l'habitude de les kiffer.
Faut juste faire un pas de côté en fait. C'est toujours ça.
Mais tu vois là, avec l'émergence de tous les projets autour, genre justement de l'Afrique du Nord et tout sur Instagram, t'as gravé un retour de ces photos et de ces peintures là qui sont utilisées du coup par nous. Pour faire du contenu.
Même sur notre Insta.
Mais oui, le début de notre Insta, on utilisait grave ça, tu vois, jusqu'à ce que, genre, on apprenne d'où ça vient et qu'est-ce que c'est et tout, parce que, en fait, mine de rien, c'est la seule représentation qu'on a de cette époque-là aussi.
Ouais, finalement, c'est joli, hein. Je suis désolée, mais c'est joli à regarder.
Il y a des beaux tableaux, il y a des belles choses, mais genre, tu sais, tu te dis, en fait, genre, tu sais, il y avait certaines photos, tu sais, t'as toujours plein de photos, genre, de meufs avec, tu sais, « Women in Algeria in the 40s ».
Ouais.
Kabylian woman, Shaouya woman et tout, non. Et tu dis, mais attends, genre, en fait, dans quel contexte elles ont été prises ces photos? Et quand tu réfléchis à ça, c'est là que tu dis, mais est-ce que tu peux les utiliser ou pas, sachant que elles ont été prises dans ce contexte-là, mais c'est la seule représentation qu'on a de ça. Mais qu'est-ce que, genre, et tu sais, t'as une sorte de schizophrénie, j'ai l'impression, tu vois, dans les jeunes de maintenant, de qu'est-ce que, comment on doit voir ça et genre comment on doit réagir à ça, tu vois.
Il y a, la réponse, c'est de contextualiser, tu vois. Je pense qu'on pourra pas l'effacer. On peut pas effacer des pans de l'histoire, tu vois.
Non, c'est impossible.
Mais leur donner la place qu'ils méritent, genre. Comme une, un bout d'histoire honteuse, tu vois. Ouais. Un bout d'histoire honteuse d'un procédé artistique peu moral dans une période tout aussi peu morale, etc. Mm. Et commencer à imaginer et pourquoi pas tendre vers ça, de pas se réapproprier les images parce que, on a dit, le contexte est là, mais se réapproprier peut-être le procédé. C'est-à-dire que, Amel, tu me disais les peintures, elles sont belles. Je te jure que tu prends une artiste vierge de toute cet imaginaire-là, tu vois, une artiste de chez nous, et je dis bien une, parce que je pense qu'une femme ferait mieux ça qu'un homme d'Orient, tu vois. Une artiste d'Orient, tu lui dis, peins-moi une scène avec des femmes dans leur intimité, etc. Je suis sûr qu'elle est capable de faire un truc beau et un peu plus respectueux que ce que
moins de voyeurisme.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est clair.
Après, en vrai, ça c'est même un problème, en tout cas chez les femmes, tu vois, qui touchent genre tous les pans artistiques de toutes les femmes du monde. Ouais. Genre, j'ai une copine qui avait fait qui s'appelle Louvre d'ailleurs, je cite.
Big
qui avait fait une. En fait, elle avait fait tout un projet artistique autour de. Elle avait pris en photo en fait des femmes nues dans leur salle de bain parce qu'elle s'est rendue compte que la question de la salle de bain et genre de la baignoire, ça a été une question dans l'art qui a été uniquement traitée par les hommes, alors que pourtant c'est le moment le plus intime d'une personne, tu vois. Et du coup, genre, elle avait fait tout ça, mais en gros, elle avait eu toute cette réflexion là sur le fait que, genre, comment ça se fait que le moment le plus intime des femmes n'ait été représenté que par des hommes et qu'il n'y ait aucune femme qui s'est emparée de ce sujet là, comme si, genre, tu sais, les femmes, on a l'impression que les sujets qu'on a toujours l'impression qu'on doit prouver, tu vois, et que les sujets qu'on doit aborder, c'est toujours des sujets de on doit prouver, on doit être dans la performance, on doit être forte, on doit être indépendante, on doit être, tu vois. Et bon, aujourd'hui ça change beaucoup, mais en fait, genre, l'orientalisme, c'est aussi, ça s'inscrit aussi dans ça, tu vois, ça s'inscrit aussi dans le fait que c'est comme ça aussi, pas uniquement pour les femmes des pays colonisés ou pour les personnes en général des pays colonisés, parce qu'il y a aussi des hommes sur les photos, il y a aussi des familles sur les photos. Et bon, par contre, je me demande, ça aurait été comment s'il y avait eu Twitter et l'appropriation culturelle et tout à cette époque-là.
Bah, je pense que c'est Twitter est pas né pour ça, mais c'est mouvant, ce de crier au scandale et crier à l'appropriation culturelle. Et je l'utilise bien avec des termes péjoratifs parce que des fois ça casse les couilles. Je suis un peu traumatisé de ce milieu-là. Mais c'est né pour ça. C'est né parce qu'il y avait des gens qui avaient pris trop de liberté avec ça. Et donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on attrape des petites stars d'internet. On le dit. Ouais, j'ai le droit, à quoi tu joues?
Mais t'as raison, tu vois, parce que l'appropriation culturelle, c'est pas juste s'approprier une esthétique pour un post Insta, tu vois, il y a toute une logique économique dans un contexte capitaliste qui fait que nous qui, par exemple, on va utiliser par exemple certains vêtements, je prends l'exemple des vêtements, on va être raillé, et là tout d'un coup, quand c'est une personne, un influenceur blanc qui est qui est un peu connu et qui poste qui met un post Insta qui va lui rapporter de l'argent, lui par contre on va le célébrer, tu vois.
Je te tends un micro fictif, est-ce que t'as un nom?
Ah non,
je réponds pas à cette question.
Non. Non, mais c'est ça, c'est que du coup nous on est dans un contexte d'inégalité systémique, donc moi je suis pour qu'on crie haut et fort quand il y a quelque chose qui va pas, justement, quand on va se rapproprier des esthétiques, en fait, tu vois.
À fond.
Comme mettre l'appel à la prière pour un show, par exemple.
Ouais, qu'on évoquait en neuf. Là ça va même au-delà
comme
de ça.
Une grande marque de fast fashion qui vend des djellabas à 300€. Mais bref, non. Mais de toute façon, l'orientalisme, en soi, ça s'inscrit dans... Enfin, c'est lié à la notion de fantasme, en soi.
Absolument.
C'est un fantasme. Mais c'est dur, en fait, parce que tu dis que c'est des archives qui existent, mais c'est des archives qui ne sont pas destinées. C'est triste, en vrai.
C'est terrible, hein, le regard du colon.
C'est ça, c'est archi triste. Parce que genre tu vas regarder des photos de la France dans les années 50, je suis française, hein, et très fière d'être française, mais c'est pas... Je me sens pas trop... Enfin, je suis pas trop là, quoi, tu vois. Et c'est dommage, en fait, de dire que c'est que ça, ce qu'on a. Mais après, je pense que c'est aussi une question de peut-être de fouiller, de chercher. De... Je me demande s'il y a d'ailleurs des artistes, des choses qui se sont passées chez les personnes concernées dans ces époques-là. Mais anyway, en gros, en fait, ce qui est très drôle aussi, un truc que je voulais aborder, c'était le fait que ce débat, il est complètement différent aux States. Au début de l'épisode, je parlais de Cardi B et Bodak Yellow. Je sais pas si t'as vu le clip.
Non.
En gros, genre dans le clip de Bodak Yellow, elle. Eh ben écoute, elle ride Angela Baverte sur un chameau dans un désert, et puis après il y a des cracheurs de feu et des guépards, et puis elle chie.
C'est à Dubaï, non?
Ouais, sûrement.
C'est toujours à Dubaï.
Ouais,
t'as ce truc ou Arab Money dont on parlait au
début. Je vais peut-être regretter ces mots, hein, mais j'aime bien le dire en privé. Et je vais le dire dans la tête, je m'en fous, je l'assume. Voilà, le peuple le plus bête du monde, c'est n'importe quoi, ils me rendent fou dans leur rapport aux autres peuples. Je parle des Américains, okay. Les Américains, je les vois comme le peuple le plus bête du monde, et notamment dans leur rapport aux autres. Parce que.
Pourquoi ?
Leur rapport à la géographie, tu vois.
Leur rapport à la géographie,
exactement. Exactement. Le fait qu'ils peuvent. Enfin. Ils ont des soldats dans des pays qui peuvent pas te placer sur une carte, tu vois. Et ils utilisent des images de pays qui peuvent pas te placer sur une carte.
Mais regarde, est-ce que mais tu crois que les Français, ils savent placer le Mali sur une carte?
Au moins, ils se trompent pas de continent. Okay. Et ça, tu vois, et ça, je te jure que ça change quelque chose.
La barre est basse, mais franchement,
je te jure que ça change quelque chose. Il peut même te. Oui, au moins le continent. Je demande pas grand chose.
Mais ça sert à quoi,
hein?
Pour eux,
ils sont le centre du monde, en fait.
En fait, ils sont le centre du monde. Donc, ils sachent rien.
C'est là où je vous dis qu'ils sont bêtes. Les gars,
ils sont pas bêtes. C'est leur système.
Ah oui, non, parce que attention, les gars, attention. Je dis pas que tout le pays est stupide. Je dis juste qu'il y a une moyenne, au moins sur certains sujets, qui est catastrophique.
On blâme pas l'individu, on blâme le système.
C'est ça, c'est ça.
Justement, ça me rappelle, tu sais, à chaque fois qu'il y a des films américains qui se passent au Proche-Orient, il y a toujours ce filtre
jaune,
là.
Le filtre du Mexique.
Ça, il y a une scène, mais bref, il y a une scène dans Brooklyn Nine-Nine que je pourrais pas vous citer mot pour mot, mais où elle dit je me suis fait agresser par un mec basané, c'était soit un Mexicain, soit un Colombien, enfin bref, un vrai musulman. Et où, qui traduit un peu ce rapport qu'ils ont avec les non-noirs pas blancs, tu vois.
Ouais.
Les gars, Weshden et son accusation de blackfishing.
Ah, oui, ça m'a fumé,
parce qu'ils savent pas qu'il y a des gens qui sont mat de peau. Exactement. Exactement. Et donc, leur image avec. Leur rapport avec l'image de l'Orient, ils connaissent pas. Ils savent même pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas blanc, qui n'est pas noir. Donc là, tu vas leur dire que le désert où ils ont tourné un truc avec une djellaba tordue dans je sais pas quel sens sur un chameau, etc. Tu vas leur expliquer qu'en fait il y a tout un peuple qui vit là et que ça a des conséquences et tout. Mais non, c'est pas possible. Les Américains, ils ont un rapport avec l'orientalisme.
Il y a aussi un autre truc.
Je dis pas qu'il est plus malsain, le rapport avec l'orientalisme aux États-Unis, mais il est encore plus cartoonisé. Quand je disais l'orientalisme, c'est l'impression que le peuple en face de toi,
c'est show off, hein.
Ouais, mais ils show off d'un truc qu'ils connaissent même pas.
Mais ils connaissent rien. Genre, tu vois, regarde, quand j'étais à Bouscapé, j'avais écrit un article sur la musique arabe dans le rap.
Ouais.
Et
erreur. Il y a rien de bon qui va sortir.
Et j'avais vu que, genre, en gros, j'avais analysé un peu, tu sais, les samples qui étaient utilisés. Et en fait, tu vois, aux États-Unis, ils utilisent les samples juste parce que c'est stylé. Genre, Alia, elle va utiliser du Fayrouz et du Mayed El Hanaoui juste parce que le sample il est stylé.
Et Warda aussi.
Ouais, Warda, de ouf. Juste parce que, genre, la prod elle est d'or après, tu vois. Ouais. C'est juste pour ça. Alors qu'en France, dans le rap, quand on a commencé à utiliser des samples rebeux, il y avait de la revendication derrière. Mais c'est parce qu'il y a une diaspora.
C'était
derrière.
Des rebeux qui le faisaient, ouais.
C'est tonton du bled, c'est pour toi mon frère le beurre. Ouais. C'est, tu vois. Là-bas, c'est Big Pimpin de Jay-Z. C'est ou alors c'est La Ilaha Illallah dans Arab Money.
Oh là là.
Tu vois. Et en gros, t'as un truc genre où eux, ils. En fait, comme ils ont pas vraiment de diaspora. Là-bas, les Arabes, de toute façon, c'est.
déjà les Arabes pour eux c'est pas l'Afrique, il y a pas d'Arabes en Afrique, il y a que des Noirs.
Exactement.
Là-bas pour eux.
Bah, les études d'Afrique.
Ils font des African Studies. Ouais,
il y a pas d'études pour le Maghreb.
Il y a pas de Maghreb. Le Maghreb, c'est le Middle East North Africa.
Exactement. Et du coup quelqu'un qui se spécialise dans les études africaines, il saura pas ce que ce soit pour le Maghreb.
Je comprends pas dans North Africa et pour le mettre avec MENA genre.
Mais parce qu'on est on a la même couleur. C'est l'orientalisme. On est tous arabes.
C'est un
parce qu'on se ressemble tous. C'est genre on parle la même langue, on a la même religion.
Qui part de l'Inde jusqu'au Maroc. Ouais. C'est la même chose.
Va leur dire qu'il y a des dialectes dans chaque pays.
Explosion.
Des vêtements différents.
Ils vont leur parler des berbères. Ils vont dire qu'ils sont tous noirs déjà.
Parlant des chleurs, des chaouis et tout machin.
Ça c'est fini. Quand ils vont voir qu'il y a des rouges et des kabyles.
Et qu'il est plus africain que lui.
C'est une dingue. Mais non, t'as ce truc du coup aux States où, voilà, comme il n'y a pas de diaspora nord-africaine, en fait eux, la seule diaspora du Moyen-Orient qu'ils ont dans leur tête, c'est 11 septembre, tu vois. Mmh. En vrai, c'est Al-Qaïda, genre, c'est les Arabes, c'est les méchants dans les films.
Bah, Edward Said, il a écrit dessus post 11 septembre, il me semble.
Okay.
Ouais. C'était sur l'islam dans les médias. Et justement, il étudie ça, ouais.
Bah, le gars avec qui je connais un gars, il a un livre. Et en fait, le livre, c'est la liste des films où les Arabes ou les musulmans sont les méchants. Le livre est comme ça. Chaque ligne, le livre est énorme.
Gros comme 3-4 phalanges.
Comme les deux parties des Misérables, genre, comme le dictionnaire. Et chaque ligne, c'est un film.
Fuck.
Et c'est une dinguerie, genre. Et en fait, c'est toute la liste des films qui existent où les méchants sont des Arabes ou des musulmans.
Moi, je pense qu'il faut, genre, prendre les US et, genre, les envoyer dans l'espace.
Et ils sont toujours dans ça, en fait.
Mais on parle quand même, les Anglais, c'est les mecs qui ont fait la guerre avec la Chine pour leur foutre de l'opium dans les mains pour pouvoir ensuite aller taper de l'opium en Chine. C'est-à-dire que le royaume chinois, au moment, ils ont dit, mais non, arrêtez de nous envoyer de l'opium, on veut pas être broyés. Et les Anglais, ils ont fait, je n'entends rien. On va continuer à vous droguer comme des connards. Et puis maintenant, la Chine du 19e siècle et début du 20e siècle, c'est les nids à opium, c'est.
Donc ça veut dire qu'ils ont avec l'Orient le rapport qu'ils veulent, quoi.
Ouais, c'est ça, les mecs, ils ont drogué tout un pays.
J'ai une question. Mais pas qu'un pays, toute une région de l'Asie, c'était terrible. Est-ce qu'ils ont asservi tout le monde via la drogue, pardon?
Est-ce que tout ce qui est Asie de l'Est, ça rentre dans le concept de l'orientalisme?
Oui,
carrément.
Carrément, je pense même que ça a peut-être commencé là-bas.
Carrément, parce qu'en fait,
les femmes japonaises.
Comment ça s'appelle?
Geisha. Ouais, j'ai entendu avec la K-pop, là, et les K-pop.
Ça, il y a une légère différence actuelle, mais c'est vrai que, historiquement, le terme d'Orient, c'est le regard du colon sur tout ce qui passe
à l'est.
Et du coup, évidemment, ça part du Maroc, ça part de Gibraltar, mais jusqu'à la pointe de l'Asie et avec les îles.
Il n'y a pas de frontière en fait délimitée.
Non, il n'y a pas de frontière, on est tous en Europe.
C'est tout un gros bloc en fait.
Absolument, absolument.
Qui ne ressemble pas aux blancs finalement.
Ah bah carrément.
Bah ouais, c'est ça.
Mais c'est là où il y a des épices.
Ouais.
C'est là où c'est la route du thé, c'est la route de la soie, c'est, tu vois, toute cette mythologie un peu d'aventure et de lointain, c'est avec Marco des Polo, promesses. Ça, c'est carrément ça. Okay.
Mais tu vois,
un animé Marco, une série.
Oui, une série Marco Polo sur Netflix.
Bah, je l'ai pas vu, mais je pense ça va.
Ça va se regarder un moment. Tu parlais des États-Unis. Est-ce que tu penses qu'un jour ça va se télescoper, comme je l'évoquais au début, entre l'Afrique du Nord et cette partie du monde encore qui capte pas que l'Afrique du Nord c'est l'Afrique et que du coup
et qu'on existe.
Ouais, c'est ça.
Mais
je te jure qu'ils sont pas encore joués
avec les Kardashians.
Mais je te jure qu'ils ne savent pas.
Mais les Kardashians,
je mets mon bras à couper. Exactement.
Les Kardashians, c'est des Libanaises, hein.
Non, arméniennes.
Dans l'esthétique,
exactement.
Elle se réapproprie la black culture, mais en fait, moi, ce que je vois, j'ai l'impression qu'elle se réapproprie plutôt, comme t'as dit, le Liban.
Mais c'est Liban à mort.
En fait, elles sont un peu au croisement.
Ouais, c'est ça.
Si tu mélanges leur côté arménien avec le côté noir et leur côté blanche, tu mélanges tout et bim, t'as
le Liban.
Genre, en gros, la jeune
Hey, si vous aviez pu voir,
elle a dit
les...
tu mélanges les
boum,
elle a dit tu mélanges
paf,
l'Afrique subsaharienne, l'Arménie, boum, t'as les Arabes.
Les... j'ai envie de dire c'est mathématique, tu vois, c'est pile au milieu.
Les... définissez un pas de menace de mort dans les DM.
Ensemble,
s'il vous plaît.
On est un peu à mi-chemin.
Ouais, on parlait de... du Japon, enfin du Japon, pardon, c'est parce que j'ai visualisé le truc, de l'Asie de l'Est, et de dire que peut-être l'orientalisme commence là-haut, mais là où je vois une forte, enfin là où je sens l'orientalisme très fort, c'est au Liban, j'avoue, costaud, avec Liban-Égypte, avec leur sens de la diva qu'ils ont eu dans les années 50-60, avec
au travers du cinéma, tu penses?
Cinéma, musique, je l'ai fait l'expo à l'Institut du Monde Arabe.
Elle était incroyable.
Franchement, elle est cool parce qu'on voit des trucs beaux. Mais là, dans notre discussion, je replace ça. Et quand je vois le jus et la force que l'Occident a mis dans ses artistes et dans ses productions à cette époque-là, est-ce que ça rejoint pas la démarche orientaliste de l'époque de waouh, c'est beau,
c'est des cartes
postales qui fait des salles pleines à Paris et tout,
c'est ça.
Qui s'évanouissent, qui font, enfin qui, c'était terrible. Hein.
Après,
je pense qu'il y a aussi un côté du coup fantasmé et iconique, genre.
En fait, moi je pense que tu vois quand tu dis elle fait salle pleine et il y avait des gens qui s'évanouissent, c'est juste parce que c'était une grande dame, une génie de la musique,
non, mais
etc.
Mais
je pense qu'on lui a donné une salle à remplir. Parce que beau, différent, parce que orientaliste.
Et même pas que ça, mais c'est même c'est pas, plus loin. Enfin, moi, j'irais même plus loin. C'est aussi, tu sais, on est dans des sociétés musulmanes qui sont genre... En fait, c'est pareil que les cérémonies de dévoilement. Parce que tout ça, ça vient de quoi aussi? C'est les cabarets,
les
cigarettes, tout le truc dénudé et tout. Et en vrai, ça s'inscrit dans tout ça. Et c'est un peu genre le voyage... Enfin, tu sais, c'est le cabaret, c'est un peu l'endroit où tu peux voir tout ça, tu vois. Et c'était belly dancer et tout, genre c'est dans, ça rentre dans tout ça. Et c'est pareil que l'envie en fait de voir et l'envie de s'extirper genre des barrières que l'islam met en vrai entre les femmes et la culture, hein, pas que l'islam. Entre la population et les autres, et en vrai, c'est pour moi, c'est aussi une sorte de forme de voyeurisme. T'as pas tout
ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que ça rappelle aussi les harems. Les harems, enfin, c'est un truc dont rêvaient les hommes européens aussi, genre avoir tout plein de femmes, avoir des femmes orientales entre guillemets, lasses, toujours ouvertes à plein de choses. Y a l'exotisme, mais du coup tout ce que tu as dit, genre les fumées, les chichas, tout ça, les endroits un peu drapés, un peu rouge, un peu petite
lumière tamisée
et tout, enfin c'était qu'on retrouvait dans les cabarets, etc. C'est quelque chose qu'il voulait et qu'il retrouvait dans le genre de milieu.
Bien sûr.
Absolument. À défaut d'avoir un vrai harem, ils avaient ça.
Voilà. Ouais. Et au Japon, ils avaient les geishas. Et en vrai, genre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun je pense avec le Japon. Genre, tu sais, je pense au hammam par exemple. Genre, c'est grave les onsen des Japonais. Genre, tu sais, il y a grave des.
Mais après, il me semble que la France, elle a été obsédée par le Japon comme elle a été obsédée par. Le Maghreb. Hein.
La France, je sais pas.
La France, elle est obsédée par la France.
Non, je te contredis pas. La France, je sais vraiment pas. Mais je sais que les anglo-saxons
dans
avec
le Japon,
l'Asie.
Non.
Les Ricains, les copains dans les années les rapports américains japonais,
oui, après
tout
la
ce
guerre
ça...
Moi je te parle d'un peu plus loin,
encore plus avant,
du 18e même,
18e, d'accord.
Ah ouais, j'aurais dit même plus récemment,
14 et tout, le mec, enfin il me semble, en tout cas certains rois et tout, ils voulaient des petites salles un peu plus japonaises, un peu, c'était un truc qu'ils disaient, je sais pas si c'est correct ce que je dis, mais non, il me semble. Il voulait vraiment des femmes poupées aussi. T'avais cette idée-là de la femme japonaise soumise, qui dit oui à tout, qui parle pas beaucoup, qui est silencieuse, qui ressemble un peu à une petite fille finalement, et qui fait ça, et qui fait ça.
Ça y est, je suis de retour dans ma nausée là.
Ah, je suis mort.
Tu veux une bacille?
Non, il y a un truc dont j'aimerais qu'on parle aussi. Enfin, c'est un peu revenir genre sur tout ce qui est aujourd'hui, tu vois, l'actuel orientalisme un peu intégré. On pense quoi des shootings chicha selecto djellaba là qu'on voit fleurir sur Instagram
En fait, c'est
parce que apparemment, je suis à pop-up, je suis désolée.
C'est ça. Non, genre là, t'as posé la question et
moi, j'ai plein de
je m'apprêtais,
noms,
je m'apprêtais moi, à le défendre.
Ah gros, ah, ouais.
Enfin, je vois de quoi vous parlez, mais
Ah ouais, mais je pensais même pas à
mais
ça.
Mais moi, c'est exactement moi.
À qui
Si tu mélanges une, enfin, un bar à chicha, un établissement à chicha, thé, selecto, ah, on est encore un peu cohérent. Si tu jettes une djellaba au milieu de tout
et
ça,
un grec.
Ouais.
Et un grec. Qui en fait personne mange de grec à la chicha,
tu Angela là-bas,
tu prennes un.
Ouais, non, ce que je trouve vraiment intéressant, là je veux pas faire le tribunal des personnes.
Non, bien sûr.
Ça. Ce qui est intéressant, c'est en fait comment nous, tu vois, en tant que jeunes d'ici, c'est exactement ce que Anas disait, c'est on s'est retrouvé à orientaliser notre propre culture,
ouais,
tu vois.
Pour plaire aux...
Et c'est à dire que genre quand on veut faire un travail artistique, en fait tellement, et je pense aussi que ça découle de l'orientalisme, c'est tellement on a été habitué à ça, à cet imaginaire là, à cette représentation là. Nous, quand on va commencer à faire de l'art, et ben en fait on va s'inscrire dans ça parce que c'est tout ce qui existe pour nous. Donc on va même pas imaginer que c'est possible de faire des belles images avec des personnes nord-africaines, avec des marques nord-africaines, dans un décor nord-africain, sans forcément rentrer dans un truc genre cliché de sélecto machin. Et ça, je pense que c'est un truc que plein d'artistes, tu vois, ont. Je pense que plein d'artistes noirs, tu vois, ont l'impression qu'il faut qu'ils mettent en avant genre leur blackness pour être intéressant, que beaucoup d'artistes asiatiques ont besoin de mettre ça en avant. Et genre, c'est comment en fait on peut construire genre de nouvelles images, tu vois, alors que, et comment on peut se dire genre décolonial alors que tout notre imaginaire décolonial et toutes les images qu'on construit autour de ça, bah c'est que des images hyper clichés,
ouais,
en fait,
dans la continuité de l'orientalisme.
Moi, je te mens pas, en solution je vois plus une fuite en avant, comme je disais un peu plus tôt, je sais pas si on peut effacer un pan de l'histoire et j'ai l'impression qu'on peut pas trop,
oui,
donc plutôt que de vouloir recréer une nouvelle base, on a cette base là mais on l'a fait tellement évoluer qu'au final on s'éloigne du cliché qui nous posait problème, qui nous posait problème au début.
Faut reconnaître d'où on vient en termes d'influence, parce que finalement on a été, qu'on le veuille ou non, influencé par ça.
Et on l'a pas choisi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas de notre faute.
Bien sûr.
On l'a pas choisi, par contre.
Pas de faute.
On a le pouvoir de.
Ah, non, il n'y a pas de faute dans le sens où nous, on est dans cet environnement, on est franco-maghrébin.
Ouais.
Et évidemment, on part avec le bagage qu'on a.
Ouais, c'est ça. Et on peut en faire ce qu'on veut, quitte à arriver sur un modèle plus intéressant et moins dégradant, moins stéréotypé, quoi.
Bah, plus connecté avec la réalité du terrain sur les populations et les paysages qui sont représentés, absolument.
Parce que je suis désolé, hein, je vais continuer à me sentir touché quand je verrai une bouteille de selecto sur une photo bien travaillée, tu vois. Je pense que moi, en tout cas, j'arriverai pas à le changer.
Non, c'est pas le selecto.
Oui. Non, t'inquiète, j'ai compris que c'est plus large. Ouais, bien sûr.
Tu vois.
Bien sûr.
On intériorise le regard blanc, tu vois. En fait, c'est ça tout le problème. Donc là, tu vois, il y a des gens qui vont faire ce genre de shooting et qui vont s'inscrire dans une logique décoloniale. Moi, je vois pas du tout de logique décoloniale là-dedans, tu vois. Moi, je vois juste une reproduction de ce qu'un blanc aurait fait en pensant à la chicha, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper... c'est dangereux. Allez, on va dire
ouais,
ça.
Mais on met les mots.
On met les mots. C'est
dangereux d'un point de vue culturel. Il y a personne qui en mourra, mais...
Voilà, c'est ça. En fait, ça va... Si tu veux, si on fait tout le temps ce genre de clichés, de photos et tout, on laissera pas d'espace en fait à la réalité, tu vois, à des personnes qui voudront mettre en avant la réalité. Et quand bien même elles voudront le faire, en fait on va pas leur donner la visibilité parce que c'est pas ce qui fait, ce qui va ramener le plus de gens à ton exposition.
Il y a une autre, j'ai cité l'expo Diva. Depuis quelques temps, à cause d'une certaine personne, je fais pas mal d'expos, plus d'expos que j'avais l'habitude d'en faire, tu vois.
Celle de quartier.
Celle de quartier.
Parce que je voulais en parler après, justement.
Celle de quartier, mais j'allais plus parler de celle. Ouais, j'ai fait beaucoup plus d'expos que d'habitude. Bref, au Musée des Arts et Métiers, l'expo Douce France, qui retrace les rebeux en France culturellement.
Ah ouais,
elle est terrible. Ah. Ouais, les gars, j'ai encore une photo. Ouais, j'ai vu une photo d'Idir jeune.
De ça, en fait.
J'avais jamais vu Idir jeune. Des vidéos, ma gueule, des vieux clips, j'ai pété les plombs. Et on parle d'esthétique très cliché. Note.
take that down.
France,
on parle d'esthétique très cliché et très souligné parce qu'en fait, de l'accumulation. Limite, on essaye d'écrire arabe sur la photo avec
des caractères
Fujite, ouais. Machin. Et en fait, non, dans l'expo Douce France, un truc qui m'a parlé et que j'avais pas l'habitude, tu vois une espèce de table. Une table, je vous cache d'autres détails parce que ce serait long à expliquer, mais il y a une table avec des trucs écrits pour dire en gros ce qui se passait sur cette table dans les cafés fréquentés par les Algériens et les rebeux de l'époque. Et il y a on joue au domino, tu vois. Et il y a peu de choses qui me renvoient plus au bled que les parties de domino de mes oncles, et etc. Et j'ai trouvé que ça, je te jure qu'un blanc il le sort pas. Un blanc qui n'a pas passé du temps au bled, qui n'a pas passé du temps avec des vraies personnes.
Au contact, ouais.
Exactement, au contact de cette culture, je te jure qu'il ne te le sort pas. Et donc je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a plein d'autres axes à travailler et à soulever qui sont du coup les nôtres pour de vrai.
Bah, en fait, le problème du cliché, c'est quoi ? C'est ce que tu vois directement, ouais. Genre avec tes yeux sans passer par aucun intermédiaire. En l'occurrence, tu arrives au bled, tu vois les grosses canettes de Coca-Cola, je sais pas quoi là. Du coup, c'est directement ce que tu vois visuellement, ouais, c'est ce que tu vas retranscrire visuellement. Le domino, il faut le vivre pour le mettre en avant. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça, tu vois. Je pense qu'on confond beaucoup ce qu'on voit et ce qu'on vit. Et que la majorité des artistes, en fait, là je parle vraiment des gens ici, tu vois, mais j'ai même l'impression que au bled t'as plein de jeunes qui rentrent aussi dans ce truc là parce que c'est ce qu'ils voient sur internet fait par les français, par les rebeux français. Ils se disent c'est ça que c'est qui marche, donc nous aussi on va faire ça, tu vois. Donc je pense qu'en fait ça devient un cercle vicieux un peu bizarre où genre nous on crée des images clichés. Là-bas du coup ils font aussi des images clichés parce que c'est ce qui marche, parce que ce qui marche c'est ce que l'Occident valide en vrai. Genre, tu sais, je prends tous les collectifs des rappeurs marocains et tout, ça marche parce qu'ils font des feats avec Laylo, avec des dossiers, et qu'il y a une reconnaissance européenne.
Comment ils s'appellent
dans leur musique, les Sheyfin.
Ah, Sheyfin.
Non, je
sais pas. Dobby, tu parles de
Mad.
Ouais, Mad.
Mad, ouais.
C'est le frère de Sheyfin.
Je savais pas du tout.
Ils sont deux frères dans Sheyfin.
Ok. Et Mad, il est. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé un peu dans cette démarche là que je disais, de pas soulever les trucs qu'on a l'habitude de soulever. Et encore, ça fait longtemps que j'ai pas suivi un peu son actualité, etc. Mais parce que c'est un mec de là-bas, il arrive, il dit ouais, j'ai des choses à vous montrer en tant que rebeu, et pour une fois c'est pas celle que vous connaissez dans
et
la
même tu sais, il l'inscrit dans un truc un peu futuriste de...
Exactement.
C'est un peu à la Laylo et
exactement.
Tout,
ouais, voilà. Et Soul King pareil, il est arrivé en clamant que c'était un rebeu, etc. Mais
avec... C'est trop arabe,
ouais.
C'est trop arabe.
C'est ça, mais...
Genre même dans ses visuels, c'est mal fait, c'est là, ça arabe, tu vois.
De façon audiovisuelle, Canal
c'est
Algérie.
C'est pas un bouguet, voilà, tu vois. C'est vraiment ça. C'est pas un bouc de l'esthétique, mais j'aime trop. Parce qu'il l'assume en vrai.
Ouais.
Et que ce qu'il fait, genre pour le bête, c'est déjà une dinguerie en vrai.
C'est trop bien. T'allais parler de l'expo quartier, Abel.
Ouais, mais en fait, en gros, il y a une expo du coup au musée des arts décoratifs. Comme Douce France, et c'est pour ça que du coup ça m'a dit.
Non, c'est
non,
pas.
C'est arts et métiers, non ?
Non, ouais, c'est musée des arts décoratifs.
Non, lui il est parlé au musée. Au MAM.
Des arts et métiers, ouais.
Ah,
Douce
là,
France, Douce France c'est les arts et métiers, mais ouais, c'est.
Parce que je me dis, c'est bien parce que je suis allée.
J'ai dit arts et métiers tout à l'heure.
Non, toi t'as dit arts
et métiers. Non, t'avais dit arts
et
métiers. Et toi t'es aux arts déco, toi.
Ouais.
C'est ok. Du coup, là-bas, il y a l'expo Islam et les buts de quartier. Et en fait, ils parlent d'islam, mais finalement, quand je suis allée voir l'expo, c'était de l'orientalisme. Mais pur et dur, t'avais des trucs sur l'Inde, sur la Chine. Enfin, je veux bien, il y a plein de musulmans en Inde, peut-être aussi en Chine aussi, mais à cette époque-là, c'était pas.
Carrément, tu
c'était pas le sujet principal, tu vois. Et...
Tu tues ça parce que j'avais oublié
bisous,
qu'à la base, ça parlait de l'islam.
En forme de fruit, je t'en disais, mais où est l'islam là-dedans ? Je me dis, fruit, c'est cool, c'est bien, mais
ils t'ont mis un tapis de prière accroché à un mur à un moment.
C'était pas l'islam, c'était beaucoup de bijoux avec des rubis, des émeraudes, tout ça, tu vois. C'était très. Très beau, très luxueux, très plein, très coloré.
Ouais, très quartier, quoi.
Mais pas islam.
Vide de substance.
Donc c'était juste quartier et l'orientalisme. C'est quartier à la rencontre du monde exotique. Du Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud aussi. Donc c'était vraiment que ça, finalement. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah... pas tant d'islam que ça. C'est joli, mais...
Je l'avais complètement
j'ai pas retrouvé
oublié.
Ce que je voulais, tu vois.
Ouais.
Et c'était très trompeur. Comme titre,
à fond.
Enfin comme nom d'expo en tout cas. Donc je voulais juste en parler. Super expo quand même, hein. Ça reste super joli.
Ouais, mais allez voir des beaux bijoux.
C'était principalement des bijoux portés par des Anglais, tu vois, et
en plus.
Des royautés,
c'est quartier
européennes. mais pas d'islam là-dedans.
On met pas vos meufs là-bas, ça donne des idées pour des dots et
tout. Ah, c'est magnifique. Le photo que j'ai pris là-bas, je suis en mode, ouais, quand je serai grande, je suis déjà grande, hein, mais quand je serai grande, je serai j'aurais ça moi aussi.
Tout à l'heure, t'avais évoqué la figure de la beurette et on n'a pas.
Ouais, c'est vrai, on a parlé de ça.
Je sais pas si vous voulez en parler.
C'est grave, mais en fait, tu sais, ce que je trouve vraiment intéressant, parce que tout à l'heure, tu parlais des Grecs.
Ouais.
Les Grecs, c'est pas un truc maghrébin.
Bah non.
Ouais.
En fait, l'orientalisme aujourd'hui.
L'Empire Ottoman, c'était grave.
Est-ce que c'est pas la banlieue, genre?
Mais est-ce que la banlieue n'est pas orientalisée, tu vois, aujourd'hui?
Finalement,
c'est ça. Bah, est-ce que c'est pas ça en fait l'orientalisme maintenant, parce que genre la culture maghrébine elle est tellement mélangée, tu sais, on en avait parlé une fois dans un épisode du fait que genre même quand t'es pas un rebeu de banlieue tu te sens proche de la banlieue, tu sais, et même quand t'es pas, enfin même quand t'es banlieusard et que t'es pas un rebeu, tu sais, t'as ce truc où genre toutes les cultures en fait elles se mélangent trop maintenant, parce qu'on a tous grandi ensemble, y a pas de communautarisme comme au States où on a grandi que avec des Arabes et pas de Noirs, pas de machin, pas de, tu vois.
Mais ça c'est un phénomène plus de classe finalement, tu vois, c'est juste qu'on est tous pauvres ensemble, on est tous mis au même endroit.
C'est à peu près ça.
Mais tu vois, au States ils vont quand même rester
c'est
genre
très communautaire, c'est
dans leur communauté, tu vois.
Après les Arabes de là-bas, je sais pas si c'est pas pour tout le monde, mais ils sont riches quand même.
Ouais, mais parce que en fait tu sais pourquoi,
parce qu'ils ont eu
Avant qu'on revienne, si t'es pauvre, tu vois.
Ouais, ouais, je sais.
T'es dans le quartier des Latinos. Si t'es Renois, t'es avec les Renois. Ouais, ouais. Si t'es Italien, t'es avec les Italiens. Ouais, les Coréens, ils restent avec les Coréens. Genre.
Regarde, avant qu'on revienne, du coup, sur le sujet de la barrette que tu voulais ramener. la différence avec les États-Unis, c'est parce que les phénomènes qu'ont amené les communautés, c'est pas les mêmes.
C'est vrai.
Dans le sens où les Mexicains, c'est de la migration. Enfin, je dis les Mexicains, même là, je fais de la généralité. Les communautés latino qui s'installent, etc., c'est par migration, etc. Les communautés afro-américaines, c'est l'esclavage. Les communautés du Moyen-Orient, c'est aussi un autre type de migration. Donc, en gros, c'est pas ils sont arrivés ensemble, c'est pas Renault qui a dit on a des usines, venez travailler chez nous. Ouais, alors qu'en France, c'est un peu plus ça. Et donc, le flux migratoire en plus, il venait de la même direction, de pays colonisés, de pays proches. Donc, c'est pour ça que le mélange, il était beaucoup plus fort en France.
Ouais. Puis il fallait beaucoup d'argent aussi pour aller du Moyen-Orient jusqu'en Amérique. Du coup, les familles qui y vont, c'est pas les mêmes. Hein.
Ça, alors c'est marrant, tu vois, parce que ça. Une petite tangente, je fais ça bref, mais en gros, les populations asiatiques, les premières qui sont arrivées aux US, en fait, elles se sont faites un moment refouler à la frontière parce que les Américains, à un moment, ils ont dit il faut qu'on garde un pays blanc. Et après, les seuls qui ont pu venir, c'était des populations extrêmement bien éduquées, instruites. Et en fait, ça a mis les talons, en fait, ça a mis la barre super haute pour les autres. En fait, le cliché de « Ah, bah, si t'es fils d'Asiate et afro-asiatique, tu vas être docteur ou avocat ou ingénieur, tu vois, et rien d'autre. »
Afro-asiatique
Non, j'ai dit américano-asiatique, désolé.
Ouais.
Et en fait, bah, c'est alors que ben, les Renois, c'est pas du tout ça, les Jamaïcains, c'est pas du tout ça, les Italiens, c'était vachement de fuite aussi pendant la dictature, pareil pour les Portugais.
Après, c'est aussi pareil pour les Asiatiques avec l'Indochine, enfin avec la guerre du Vietnam et tout, c'était aussi ça finalement.
Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Et du coup, c'est deux populations différentes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre un bloc asiatique, parce que les Chinois qui sont venus et les Américains sont venus, c'est pas la même chose que les Viet qui sont venus. Ben en fait, et même pareil, les Cubains qui sont venus, c'était vachement des bourgeois qui ont échappé à la révolution communiste, alors que les Mexicains, les Colombiens qui sont venus, bah, c'est pas des bourgeois qui sont venus en Floride pour.
Il y a eu vraiment beaucoup de types d'immigration finalement en États-Unis qu'on retrouve pas forcément.
C'est pour ça qu'elle compartimente les communautés.
C'est pour ça qu'ici la culture elle est beaucoup plus mélangée en fait, et que l'orientalisme il va plus se faire sur un truc un peu plus global de jeunes. Africains en vrai, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que vraiment, genre, que des maghrébins, je trouve. Après, même si la figure de la beurette elle est hyper prédominante, typiquement en fait,
l'orientalisme d'aujourd'hui,
l'enfant de l'orientalisme de l'époque des colonies, quoi. C'est la même chose, c'est toujours ce même schéma de la meuf qu'il faut sauver, qu'il faut dévoiler, qu'il faut dévierger, qu'il faut, tu vois, genre, c'est toujours ça en vrai, et on le voit partout, que ce soit dans les films, que ce soit même dans les images, même dans, je vais pas dire la musique, mais en vrai,
mais on n'a pas peur de le dire, hein.
Donc tu sais, t'as toujours ce truc de la figure interdite, on en a parlé, on en a reparlé, mais voilà, en vrai,
Du coup, bah, allez écouter l'épisode Entre Femmes.
Ouais,
ok. Écoutez l'épisode c'est Entre parti. Femmes après celui-là. C'est l'ordre dans lequel il faut écouter.
Petite curiosité étymologique, le harem, le mot harem, ça vient de haram, en fait.
L'interdit.
L'interdit et à la fois.
Ouais, mais,
ouais, mais aussi le sacré, en fait. Comme el masjid, el haram.
Ouais, c'est vrai.
Donc en fait, le tellement sacré que ça en devient interdit d'y entrer.
Ouais. On va faire une petite pause musicale. On va écouter La Caution, Thé à la menthe. Théophile, est-ce que tu peux un peu nous introduire le son?
Thé à la menthe, pour moi, c'est l'expérience d'être rebeu dans Paname. C'est être français et être maghrébin au centre de tout ce qui se passe.
Ok, on écoute Thé à la menthe de La Caution sur la télé.
J'ai souvenir d'une madame Nicole, un stit qui pensait qu'un boulou n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies basket. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais, mais sois sûr que le premier qui nous a vu s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort volait sans clinet. On squatte le bac à sable avec son sable et nos idées, afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. Après nos voisins, de gros racistes, je le précise, nous étions mal élevés, leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru, car parental est le seul amour que j'ai jamais eu. Donc pour pas se vénère, s'y met à la menthe, les vertus du nerne, donc du thé à la menthe.
Bidonville, ambiance clandestine dans un bar à Barbès. Et à la menthe, couscous et tagine à la carte. Plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdallah. Avec un sale accent, pas de salam alek. Me dit Hassan l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood à Tamadrasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères. Comme un malade mental, j'ai mal à la tête. Je cavale en Stan Smith, Adidas, jean 501, savagement tape. Ici c'est v'là la totale. Pour quelques douces de plus, y'a des carnages dans l'air. Cette France me désintègre, on classe ça rappe comme un barbare bancal. Nique la culture du barbecue, du steak et des fast food au bled. C'est la djellaba et les sandales d'Oujda à Casablanca. C'est banal en bas de la tête, je m'emmerde et je pèse que dalle. Ça se bat la frambade, mon rôle, ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. De notre héritage culturel.
Essence, Nastase et 500, un pento, cassette de fond, quel daron, 505, mais 20 le mot, problème avec un grand P, face auquel tout le monde a tremplé ou trempé. Après l'innocence, le pessimisme s'est ancré, devant l'incandescence, le droit chemin s'est cambré. Je lui ai tendu la main et le bonheur m'a crampé. Genre, seul l'argent et l'honneur peut me rendre vrai. Mais si on peut t'accuser de choses que si t'avais fait, tu te pendrais. Il leur faut un arabe, un noir, ce que tu veux, bref, du concret. On a eu la chance de ne jamais se prendre au sérieux, côtoyer le vice sans jamais faire le saut périlleux. Modelant, notre vie loin du saut de l'ange. À l'école, nouveau tour contre l'albatros de Beauterre. On s'est retrouvé dans le rap contre toute réelle attente. La recette sans pleurs, stylo était à la menthe.
Avant les recos, il y a quand même quelques
toute
trucs.
Petite parenthèse. Lina, à chaque fois que je me lance et que je dis ce que je pense, elle me dit pas de vulgarité. Donc, je préchote et je vous sors la version clean de ce que je voulais dire. Il faut je vous laisserai vous insulter en fait les écoles et les universités et
attends,
les facs.
Je me sens seule parce que je suis pas dans les photos. Ah pardon.
Vas-y, recommence. Bref,
je vous laisserai vous-même insulter les écoles, l'université, fac, tout ce que tu veux, qu'organise des soirées orientalistes. Mille et une nuits, mille et une mille et une versions plus vulgaires des mille et une nuits. Soirée beurette, soirée machin. Je pense même à des anciennes amies de fac qui aimaient trop se prendre en photo, maquiller avant une soirée, dire ouais, mais beurette, machin. Arrête, parler à vos potes, faut que ça s'arrête. Et voilà, merci, là on attaque les recos.
This has to stop.
Les soirées le souk, la casbah, machin, là, les raves.
Tu sais que Rock the Casbah, la casbah, c'est pas la casbah. Dans Rock the Casbah, la casbah, c'est un club. C'est une boîte.
Mais elle existe toujours.
Oui, bien sûr. Et oui, bah, ils en parlent dans l'expo Douce France. Bref. Let's go, attaquons les gens.
Chouf, les recommandations. Alors, moi, ma recommandation, je l'avais et j'ai oublié. Du coup, si tu vas commencer à ma place.
Votre bon soldat, toujours double recommandation. L'expo Douce France que j'ai évoqué dans l'épisode plusieurs fois, excellente. Idir jeune, franchement, ça m'a trop marqué dans toute l'expo. De super photos de Rachida, de super photos jeunes et dans une esthétique. En fait, c'est ça ce que je disais. L'esthétique de l'expo, elle est très loin des clichés et quand même super appropriée. Donc, on se reconnaît. Et donc, foncez la voir. Et la deuxième recommandation, ma page Insta, ma chaîne YouTube, parce que je fais des vidéos sympas en ce moment et que j'ai envie qu'elle soit vue. Et donc, foncez voir ça. On parle de mon dernier livre. On parle de plein de choses, donc je vous invite.
Amen.
Alors moi, du coup, pareil, ça va être une expo. Donc celle que j'ai également mentionnée dans l'épisode, c'est Quartier des Arts de l'Islam. Et en fait, je vous la recommande parce que finalement, on comprend vraiment bien ce que c'est que l'orientalisme via cette expo. Le titre est trompeur. Et finalement, on a juste des bijoux avec beaucoup de... Comment on dit d'influence de tout l'Orient. De tout l'Orient... vu par les Européens. Donc, c'est-à-dire Chine, Japon, jusqu'au Maroc. Voilà.
Anas.
Notre invité.
Alors, moi, ce serait un compte Insta. C'est le compte Insta d'une créatrice de contenu qui s'appelle Maya Sana et qui fait pas mal de vidéos et de photos où, en fait, elle se réapproprie, elle, pour le coup, sa culture amazigh. Elle est d'origine marocaine. Et elle fait énormément de contenu éducatif sur la symbolique de certains signes. Elle se réapproprie une spiritualité amazigh aussi. Voilà, donc c'est très, comment dire, tourné vers les autochtones en fait, de l'Afrique du Nord. Et je trouve que dans cette logique décoloniale qu'on a un peu évoquée, qu'on a un peu survolée dans cet épisode-là, je trouve que c'est intéressant et justement, elle sort, elle, complètement de l'orientalisme pour vraiment capter ce qui se passe vraiment dans les peuples amazigh marocains.
Théophile.
Moi, j'ai envie de mettre la lumière sur un truc qui s'est passé très récemment et qui vient un peu dans l'orientalisme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le Sénat a voté un amendement pour interdire les femmes portant le voile à faire de la pratique sportive en club.
C'est vrai.
Et ça, c'est un truc... donc déjà, ça soulève la question extrêmement pertinente de qui veut vraiment empêcher les femmes portant le voile de faire du sport ? Est-ce les hommes musulmans ou les quinquas et soixantenaires blancs du Sénat ?
Il y a des mots à pleurer sur les talibans. Et ouais, sur leur caractère restrictif, sur les voilà. Femmes, ouais. Et...
Donc voilà. Et du coup, ça vient aussi donner la... Ça vient aussi mettre en opposition vraiment ce sentiment un peu bon prince de oui, on va libérer les femmes, ouais. On va leur enlever le voile pour qu'elles puissent enfin être celles qu'elles veulent.
Alors qu'à la fin, on reste dans le contrôle de.
C'est ça, et quand
de
ces femmes-là sont qui elles veulent en portant le voile, soudainement, ce n'est plus acceptable. Mais ça, ce n'est aucunement surprenant. Le problème, c'est quand la loi vient y mettre un peu trop son pif et restreint de facto les femmes dans la pratique des activités culturelles. Que ce soit autant le sport qu'aller accompagner les gamins qui vont faire des sorties scolaires.
Ouais, et surtout qu'on a 2 ans des JO, il me semble. C'est 2 ans, enfin c'est en
2024. Ouais.
Donc on va encore se taper une bonne grosse honte internationale. Hein, et puis voilà.
Inch'Allah.
Parce qu'il y a des athlètes qui portent le voile.
Il y a des athlètes voilés, ma gueule. Il y a des athlètes voilés qui disent.
Genre Nike et tout. Donc
vas-y, va leur dire non et va regarder la tête que les fédérations internationales vont faire quand tu vas leur dire droit dans les yeux. Non, pas toi.
Moi, je pense
que j'ai hâte du bad buzz.
Hein. Ouais, carrément, franchement, mérité. Amplement mérité.
Oh là là.
Moi, ma recommandation, c'est une marque d'huile d'olive.
Oh.
Du coup, ça s'appelle Kaya. Ça a été créé par Sarah. dont on a parlé à plusieurs reprises dans le podcast, parce que c'est elle qui nous a écrit notre premier article sur la taille.
Ok, mille words.
Ouais. Sarah Ben-Romdan qui du coup en fait pendant le confinement a un peu fait une... a décidé de repartir en fait en Tunisie dans son pays d'origine pendant plusieurs mois et en fait tout simplement chez elle elle s'est rendue compte qu'ils ont des terres où ils cultivaient de l'huile d'olive, sa famille depuis très longtemps, et elle a décidé de reprendre le business et de remonter le truc à fond. Et donc elle a créé ça cet été, je lui avais acheté ma première bouteille d'huile d'olive, et donc ça s'appelle Kaya, c'est hyper beau, c'est... l'esthétique est très épurée, l'huile est très bonne. Et je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur son Insta, sur leur Insta, parce que du coup, ils font plein de petites... Il y a plein de recettes, en fait, qu'ils font avec ça. Ils prennent les recos des gens qui ont acheté et tout. Et voilà, je trouve qu'on parle souvent de soutenir les business de nos communautés. Et vraiment, là, ce serait une bonne façon de le faire, parce que c'est rare qu'on ait des... En tout cas, dans l'alimentaire, tu vois, des business de ce genre... qui sont avec une belle esthétique, qui sont bons, qui sont bien faits. Et voilà, je voulais vraiment lui donner la force sur ça. Et je
lui rendre la force qu'elle nous a donnée. Hein,
exactement. Et lui rendre la force qu'elle nous a donnée aussi.
Encore une fois, les Tounsi et la bouffe, voilà.
Vraiment.
Un mariage incomparable. Mm-hmm. Ben, je pense que je vais y aller. Hein.
Allez.
Je suis avec Blaise aussi avant.
Ah, ouais, de ouf.
Je le répète. Blaise, t'es où? Reviens.
La Teille est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Sidox, Amel, Ziad, Théophile et Blaise. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver dans la barre de description et sur notre site www.lateillepodcast.com. Cet épisode de La Teille a été enregistré dans les locaux de Yard. On les remercie pour leur accueil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou Deezer en tapant La Teille, LATAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et sur Twitter, @LATEILLEPODCAST. On se retrouve bientôt, Inch'Allah.